France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Ce matin à 10h30, un hommage a été rendu aux abords du Stade de France à Saint-Denis où ont eu lieu les deux premières explosions au soir du 13 novembre qui ont tué une personne, Manuel Diaz, et blessé plusieurs autres. Si le Bataclan et les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris symbolisent presque à elles seules ces attaques terroristes qui ont endeuillé la France et la capitale il y a 10 ans, Saint-Denis, elle aussi a été marquée par les attentats. Pourtant, dès janvier 2015, les quartiers populaires des banlieues d'Île-de-France ont souvent été caricaturés en berceau du terrorisme, comme le fut Grigny, ville d'origine d'Amédie Coulibaly, tueur de l'hypercachère, ville dans laquelle notre invité a enquêté durant plus de 10 ans. Bonsoir Fabien Truong.
Bonsoir Quentin Lafay.
Vous êtes sociologue à l'Université Paris 8, auteur avec Jérôme Truc de Grand Ensemble, paru en janvier aux éditions de La Découverte, auteur également de cet ouvrage intitulé « Loyauté radicale au pluriel », paru également aux éditions La Découverte. Merci à vous d'être ce soir dans Question du soir.
Vous savez, on se rapproche chaque fois de cette échéance et elle est toujours très, très compliquée, très pénible, parce qu'elle nous hante tout le temps. C'est très difficile sur un plan psychologique, mais aussi sur un plan somatique. J'ai toujours très mal dormi depuis cette date. Et je dors toujours très mal et je suis obligé de m'appuyer de cachets, m'entourer de médecins. Les médecins ne m'ont jamais lâché pour essayer d'aller mieux, y compris en famille. C'est pas très facile tous les jours. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation dans la souffrance. On est tous victimes. Ce n'est pas les victimes du Bataclan. C'est les victimes du 13 novembre. Si on appelait ça V13, parce que c'est les victimes du 13 novembre. Et le ressenti que nous avons eu, c'est ce ressenti d'être laissé en seconde zone.
La voix de Bilal Mokono, victime des attentats aux abords du Stade de France. Bilal Mokono qui dit « Il n'y a pas de hiérarchie entre les souffrances, on est tous victimes du 13 novembre ». Est-ce que c'est la réalité, j'allais dire Fabien Truong, de la façon dont les choses sont perçues ou bien c'est un vœu pieux légitime d'une victime du 13 novembre ?
Le fait que, si on prend la ville de Saint-Denis, elle a été victime de ces attentats, elle l'a été. Elle a été à deux endroits différents. Le premier endroit, c'est le Stade de France. Bon, je réexplique pas, on le sait. Peut-être, on l'a oublié aussi, elle a été victime avec l'assaut, je dirais, final, qui a eu lieu dans le centre-ville de la ville de Saint-Denis, et donc un assaut qui a permis de mettre fin en fait à la traque.
Cinq jours plus tard, le 18 novembre.
Voilà, c'est ça, et qui a eu lieu en plein cœur de la ville et qui a laissé des stigmates dans la ville assez forts. Donc il y a deux moments importants pour cette ville-là et deux moments où la ville est victime et prise en otage de ces attaques, oui.
Mais tout de même, dans les représentations, est-ce qu'il y a parmi ces victimes, celles de Saint-Denis, celles de Paris intramuros, une communauté de sentiments, une communauté d'épreuves, ou bien, dans le fond, on fait encore cette distinction très française qui vise à remettre au centre la capitale et à distinguer ses victimes selon où elles ont été frappées.
Disons que au niveau des terrasses du Bataclan, il y a eu quelque chose de très spectaculaire en fait, donc qui a très très vite pris la place. Ce qui est intéressant de voir, c'est si on regarde Saint-Denis par exemple, c'est de voir aussi qu'en fait un énorme drame a été évité. Et il a été évité par qui ? Par des stadiers, par toutes les personnes en fait qui travaillent au Stade de France et en fait qu'on a célébré pendant la crise du Covid, c'est-à-dire ces fameux travailleurs et travailleuses invisibles qui ont tous été très très marqués hein, par cet événement. Et donc, même s'ils n'ont pas tous été blessés physiquement, il y a des traumas très forts de ce qui a été vu, de ce qui a été vécu à ce moment-là. Et c'est vrai que cette souffrance-là, qui est très réelle de personnes qui travaillaient, qui ont protégé, dans un lieu qui est très important, le Stade de France, en termes de bassin économique pour la ville et pour le département, comme il y a eu un travail qui a permis d'éviter le drame, on l'a un petit peu passé sous le tapis, mais ça a été quelque chose de très très important pour les gens qui ont travaillé et qui ont croisé en fait les terroristes.
Vous mentionniez, Fabien Truong, l'assaut du 18 novembre 2015. Je voudrais qu'on s'y attarde un instant et qu'on écoute la voix de deux témoins de cet affaut, des propos recueillis par BFM TV.
À 4h25, on a été réveillé par un bruit assourdissant, des coups de fusil, on entendait poum 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 poum. Non, ça m'a réveillé, j'ai sauté du lit, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis ma tête dehors, je voulais regarder, la police m'a dit non, il faut fermer monsieur, fermer. Je voyais les policiers, les pompiers, ça courait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Il y avait la fumée partout avec les hélicos.
J'ai essayé de me protéger avec la porte des toilettes, la porte de la chambre. Et on est resté comme ça avec mon bébé, on voyait des balles, on voyait des lumières, des lasers qui venaient vers nous. Et vraiment, il y avait des explosions. Hein. On sentait vraiment l'immeuble qui bougeait.
On le disait, le 18 novembre 2015, le RAID a mené un assaut brutal contre le 48 rue de la République à Saint-Denis. L'immeuble est détruit par la violence de l'assaut. Fabien Truong, qu'est-ce que ce moment-là a représenté pour les habitants de Saint-Denis ?
Ah je crois qu'on l'entend en fait hein, dans les paroles que vous avez recueillies. Donc c'est une scène dont les habitants et les habitantes se souviennent beaucoup, en parlent beaucoup, avec les trémolos. Donc ça a été important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que peut-être dans la mémoire collective, je dirais dans la mémoire locale, très très fort. Dans la mémoire collective, on a eu peut-être moins d'images, on a beaucoup moins parlé. Et puis comme c'était entre guillemets la traque finale, ça n'a pas eu exactement le même impact. Par contre, médiatiquement, on a beaucoup plus vu la figure de Jawad, qui est ce
Jawad Ben Daoud.
Voilà, ce personnage en fait qui a hébergé entre guillemets les terroristes, et du coup avec quelque chose de très stigmatisant, c'est-à-dire que les habitants et les habitantes ont très mal vécu cette surmédiatisation de cette personne-là, comme si elle représentait en gros le jeune de banlieue typique dans une forme de collusion avec les terroristes. Alors, et c'est ça qui est intéressant, et c'est peut-être ça qui intéresse toujours un sociologue quand il y a des faits divers, c'est que le personnage de Jawad, au-delà bon, il est un peu en couleur, etc.
On va l'entendre un peu plus tard.
Mais en fait, c'est un marchand de sommeil. Et du coup, derrière ce personnage-là et ce bâtiment qui a été détruit et attaqué, il y a la question du logement indigne, qui est une question centrale en fait dans les quartiers populaires et qui ressort un petit peu là dans cet événement, mais on ne l'a pas traité sous cet angle-là en fait.
Jawad Ben Daoud, on va l'entendre. Des propos recueillis par BFM TV le 18 novembre 2015.
Je suis retourné à Saint-Denis, mais je ne suis pas retourné là où il y a eu l'assaut. Parce que même si je suis responsable un peu de ce qui s'est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été traumatisés, j'ai entendu des témoignages, des choses qui m'ont touché, et de me dire d'aller là-bas, me montrer, que les gens me voient, que je suis libre, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de soigner leur traumatisme, je ne pourrais pas aller croiser les gens. Même si, j'ai rien à voir dans cette histoire, j'étais pas au courant que c'était des terroristes, et que j'ai rien à me reprocher, je pourrais très bien y aller et dire voilà, j'ai rien à voir, j'ai été jugé, on m'a relaxé. Mais par l'hébergement que j'ai fait, il y a des gens qui ont pris des balles, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a des gamines, des gens qui voient le psychologue jusqu'aujourd'hui.
Il y a quelque chose de terrible dans ce personnage de Jawad, de Fabien Truong, c'est qu'on s'en est énormément moqué collectivement. Il a été l'objet sur internet de railleries, de mèmes, il a fait l'objet d'énormément aussi d'attaques personnelles, comme si ce personnage encapsulait peut-être toutes les fausses idées que l'on se faisait sur une partie de la population de Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, et qui nous empêchait de voir ce qu'il était réellement et ce qu'était fondamentalement cet espace social également.
Oui, c'est un petit peu comme s'il capturait l'immaturité, la déresponsabilisation, la collusion, enfin le fait de pas complètement assumer ses actes, même si là, en fait, quand on l'entend dans ce son-là, il a des propos relativement cohérents. À pas très cher, en fait, ça pouvait capturer des préconceptions et laisser penser que voilà, les habitantes et les habitants des quartiers populaires prenaient les choses à la légère, en fait. C'est ça, finalement, de manière métaphorique, que ça raconte. Alors que je le répète, en sous-main, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment la question des marchands de sommeil, en fait, qui est derrière. Et c'est pas une petite question dans les quartiers populaires. Ça a peu été discuté sous cet angle-là.
Aujourd'hui, on le précise, les habitants du 48 rue de la République à Saint-Denis veulent être reconnus comme victimes du terrorisme. Fabien Truong, au-delà, qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci, je parle du 18 novembre 2015, peut faire à une ville tout entière, peut causer pour la ville de Saint-Denis? Vous avez travaillé vous-même sur une autre ville, celle de Grigny, qui a été marquée, elle, par la trajectoire d'un autre terroriste, Hamedi Coulibaly, tueur de l'hypercachère, qui a notamment grandi durant plusieurs années. Et vous avez réalisé dans ce travail que Grigny portait le sceau, entre guillemets, de cette infamie, que l'ensemble des habitants de Grigny avaient été marqués dans leur histoire par cette histoire-là. Alors on peut l'imaginer, est-ce qu'à Saint-Denis aussi, ces habitants ont porté un sceau similaire ?
Pas exactement similaire. Il y a la question de la stigmatisation, en fait, qui est très très claire et qui renvoie finalement à la manière dont les quartiers populaires sont utilisés par une partie du spectre politico-médiatique pour en gros développer une forme de politique de la peur à pas très cher, parce que basée sur des fantasmes et pas sur la réalité des faits sociaux. Donc cette dimension stigmatisation, elle est présente. Après, quand un terroriste vient d'un endroit et d'un quartier, c'est un petit peu différent. Et là, il y a quelque chose de très particulier dans la ville de Grigny par rapport à ça, qui diffère un petit peu. Et pour Saint-Denis, c'était absolument pas le cas, il faut le rappeler.
Alors, plongeons dans le sujet, hein, il y a une fausse idée qu'il faut sans doute déconstruire rapidement, idée selon laquelle beaucoup des habitants de Seine-Saint-Denis seraient peut-être en solidarité avec certains terroristes. C'est une idée qui est répétée, instrumentalisée. Vous-même, lorsque vous avez travaillé à Grigny sur d'autres attentats, sur les attentats de janvier 2015, qu'est-ce que vous avez observé ?
Oui, alors ça c'est une question intéressante, parce qu'en fait on a beaucoup entendu, et ça c'était médiatique, cette idée que voilà, les banlieues ne seraient pas solidaires parce que on ne les aurait pas vus finalement assez manifester leur élan de solidarité. Et je tiens quand même à préciser que c'est le même genre de personnes qui vont s'offusquer en voyant dans la rue une femme voilée, en disant peu ou prou que c'est un insigne quasi terroriste, et qui après les jours de janvier auraient voulu en voir beaucoup plus dans la rue en train de manifester leur solidarité. Mais en fait, la manifestation de solidarité, j'ai envie de dire, elle est toujours assez socialement située. C'est-à-dire que les personnes qui ont cherché, par exemple, à compter dans les manifestations de janvier le nombre de personnes d'apparence musulmane, bon, vous voyez déjà tout, un petit peu tous les raccourcis, où on a beaucoup de commentateurs, en fait, qui ont cherché à analyser des tweets. Est-ce qu'il y a des tweets de solidarité, etc. Et j'ai déjà envie de dire que le fait de participer à une manifestation parisienne ou d'avoir un compte Twitter et d'envoyer à l'écrit sur Internet une réaction, c'est socialement situé, c'est une manière sociale de réagir qui renvoie à un certain endroit de l'espace social.
Et sur ces manifestations parisiennes qui font suite justement aux attentats contre Charlie Hebdo, vous racontez quelque chose de stupéfiant dans votre ouvrage, ces bus qui sont mis à la disposition des habitants de Grigny pour se rendre sur la place de la République dans le centre de Paris et participer à ces manifestations collectives. Il se trouve que les bus sont trop pleins, trop peu nombreux.
Voilà, c'est ça, j'allais y venir. C'est-à-dire que quand on se déporte, en gros, on quitte Paris et on se déporte à Grigny. Qu'est-ce qui s'est passé à Grigny ? Alors très très vite, dès les premiers jours, dès les premiers attentats et même avant qu'on connaisse l'identité du tueur, un collectif s'est monté de manière un petit peu informel, et en mettant des paperboards dans la ville pour que les gens puissent exprimer leurs émotions.
Des paperboards, c'est-à-dire des affiches.
Des petites affiches, et c'est intéressant ces paperboards parce que il y a beaucoup de dessins, par exemple, il y a beaucoup de textes, notamment avec des fautes d'orthographe, etc. Parce que du coup, les personnes qui habitent à Grigny, eh bien, c'est pour ça que je parlais des tweets tout à l'heure, ont un rapport et à la langue française et à l'écrit qui est différent de personnes qui ont fait des études supérieures, mais dans le contexte local, dans un contexte de confiance, en fait, entre habitants, il y a beaucoup de choses qui se sont exprimées. Mais du coup, pour les voir, il faut y être. Et tout comme la mairie de Grigny a affrété des bus justement pour participer à cette journée de janvier, je rappelle que c'est très loin, Grigny, de Paris, que c'est compliqué, en fait, le fait de se rendre, c'est pas un coup de vélo si on habite à Paris, quoi. Et ces bus étaient pleins, et s'il y en avait eu plus, il y aurait eu plus de Grignois et de Grignoises. Donc ce genre de choses dit que, au fond, cette émotion un petit peu spontanée qu'on a tous et toutes ressentie, elle s'est exprimée aussi dans les quartiers populaires, mais en fait il faut simplement être dans les quartiers populaires à ce moment-là et à cet endroit-là pour en voir la manifestation.
Ce que vous avez fait dans Grand Ensemble, et voici ce que vous y écrivez par ailleurs, des drapeaux tricolores apparaissent à nombre de fenêtres et balcons, preuve qu'ici aussi l'appel du président de la République à pavoiser en hommage aux victimes des attentats est bien suivi, et vous ajoutez, et même peut-être plus qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, plus qu'ailleurs ?
Et peut-être même plus qu'ailleurs, oui, parce qu'en fait, comme il y a ce sentiment du stigmate et ce sentiment d'être, de se sentir un peu pris en défaut, il y a parfois, on sent ce...
Surcompensation?
Cette volonté, oui, d'une certaine manière, de vraiment montrer, de prouver, de, alors ce qu'on exprime aussi dans le livre, hein, c'est-à-dire que c'est, ça, c'est propre au quartier populaire, ce sentiment de vivre avec une conscience dédoublée, c'est-à-dire savoir qu'on est en permanence un spectacle vis-à-vis de l'extérieur, ça, c'est quelque chose avec qui, tous les habitants et les habitantes apprennent à grandir. Et c'est vrai qu'à Grigny, dans le cadre de janvier, comme il y a eu une campagne médiatique très très forte et très stigmatisante, hein, parlant de la ville, du terrorisme, d'un repère de terroristes, avec des articles, notamment du Figaro, disant que à peu près tous les jeunes étaient pro-Coulibaly, etc. Ça a fait très très mal aux habitants. C'est-à-dire que qui ressentaient une peine qu'on a en fait tous et toutes connues et qui se revoient encore, finalement dénier le droit en fait d'exprimer cette peine d'une certaine manière. Donc et c'est pas un hasard si on arrive à ce moment-là, c'est-à-dire le fait que ces habitants veulent aussi que tous ces messages, plus de 350 messages qui ont été récoltés, bah, qu'ils puissent être analysés, qu'on puisse aussi travailler sur ce qu'il y a derrière. Il me semble que ça vient aussi d'un sentiment de réparation et de réparation publique.
Est-ce que vous avez rencontré malgré tout des enquêtés, Fabien Truon, qui marquaient des réticences à exprimer leur solidarité quant aux victimes des attentats de janvier 2015 ou du 13 novembre? Et si ces réticences existent, quelle forme prenaient-elles?
Personnellement, ça ne nous est pas du tout arrivé. Après, il y a toujours des contre-exemples, tout est toujours possible. Mais en fait, même je dirais dans votre question, c'est-à-dire que c'est typiquement des questions de journalistes très courts, pour ou contre Charlie, vous voyez, ce genre de choses. Mais en fait, dès qu'on est dans le cadre un peu d'une enquête sociologique, on prend le temps de converser avec les gens, et finalement on a des discussions un petit peu longues, il peut y avoir des choses qui s'expriment, où tout le monde n'est pas exactement d'accord, peut avoir des points de vue avec des différences sur les événements, mais quand il y a le temps de les exprimer, on n'est pas dans ce pour, contre, ça c'est des vraies victimes, ça c'est des fausses victimes, ça c'est... Quand on va vite, en fait, dans les questions, et je pense à cet article du Figaro qui est vraiment construit de cette manière-là, en fait, où la dame qui fait l'article passe une demi-après-midi, elle interroge quelques collégiens ou des beautés sans connaître la ville. Bon, finalement, elle vient chercher ce qu'elle veut entendre. Elle produit, en fait, d'une certaine manière, des paroles. Je dirais, c'est un peu le béaba quand on fait de la sociologie, on apprend aux étudiants, aux étudiantes à construire, en fait, une écoute et puis à prendre un petit peu le temps en fait de récolter la parole. Et quand on prend ce temps-là, on est très loin, vous voyez, des positions un peu binaires, pour, contre, bonne victime, mauvaise victime, des choses qui sont de l'ordre finalement un peu du jugement à l'emporte-pièce, quoi.
Voici ce que vous écrivez par ailleurs dans cet ouvrage toujours, Fabien Truon, que vous avez co-signé avec Jérôme Truc. Je vous cite: l'effervescence sociale suscitée par une attaque terroriste ne dure qu'un temps. On considère généralement qu'il faut jusqu'à 10 mois pour que les effets d'un attentat majeur s'estompe. Nous sommes précisément à cette distance de janvier 2015 lorsque nous arrivons à Grigny le 13 novembre. Si la violence des nouvelles attaques terroristes ravive l'émotion dans la ville, leur impact est moins local. Cette fois-ci, aucun de leurs auteurs ne vient de Grigny. Alors, justement, dans la perception de ces attentats par les habitants de Grigny, quelle est la différence entre janvier et novembre 2015 ?
Bah, la grande différence, c'est qu'on ne parle plus d'eux dans la presse, en fait. Donc, et ça change tout. Ça veut dire que le rapport aux attentats est beaucoup plus pacifié, entre guillemets. Donc, c'est intéressant parce que à ce moment-là, notamment, Jérôme a sillonné plusieurs villes de France au même moment, et donc notamment des villes en Bretagne, pour mesurer en fait l'apparence publique en fait qu'on pouvait donner en termes de solidarité vis-à-vis de ces attentats. Et il a eu le sentiment qu'il y avait plus de drapeaux, plus de petits éléments de solidarité à Grigny que dans d'autres villes, hein, dont on parle pas du tout. Mais ce rapport aux attentats était beaucoup plus pacifié parce qu'il n'y a pas la figure d'Amédie Coulibaly, et on retrouve des choses entre guillemets tout à fait normales, tout à fait standard, mais comme au fond la vie dans les quartiers, c'est-à-dire la vie dans les quartiers, il y a une concentration de difficultés économiques et sociales, il y a de la ségrégation à différents différents endroits, c'est évident, mais les gens sont tout à fait intégrés, je mets tous les guillemets de rigueur, j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon, voilà, donc on retrouve des choses aussi ordinaires, mais c'est ça aussi la sociologie de pouvoir de documenter tout ça.
La voix d'Abiba, elle est habitante de Grigny, s'exprimait dans Mediapart le 5 février 2025.
Depuis 2015, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Jusqu'à maintenant, il y a encore des séquelles. Enfin, on a payé la note, on peut dire. La population, elle a pris un bon coup. Surtout les jeunes. Moi, je peux dire que les jeunes, ils avaient du mal à trouver une formation. Ils avaient du mal à trouver le travail. Dès qu'on voit dans leur CV Grigny, c'est direct la poubelle. Je cherche pas à comprendre. Je peux dire, je peux même témoigner que c'était l'année où ils ont mis en place, c'était le service militaire volontaire, je me souviens bien, parce qu'on avait commencé par un recrutement de 20 personnes, juste pour essayer le dispositif. Et vu que c'était la seule porte que les jeunes peuvent intégrer, on s'est trouvé d'un coup avec 300.
Quelle analyse faites-vous, Fabien Truong, de ce témoignage ?
On entend trois choses. Déjà, on entend que le stigmate, c'est pas juste des mots, ça a des implications très concrètes pour les personnes qui les subissent, et donc c'est des formes de violence qui vraiment perdurent dans les consciences, dans les subjectivités, mais qui ont des implications matérielles, parce que ça mène très souvent à de la discrimination, et là on l'entend très clairement. On entend aussi, vous voyez, par rapport au jugement un peu l'emporte-pièce, là pour un nombre réduit de places, 300 jeunes qui veulent travailler en gros, enfin pour la nation, pour l'armée. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Et puis la difficulté, c'est-à-dire la volonté de s'en sortir socialement, économiquement, mais peu d'opportunités, moins d'opportunités que dans d'autres endroits de l'espace social. Et c'est vrai que ces moments de crise ont révélé ça de mains égards. Et peut-être pour prolonger avec les mots qu'on a pu récolter sur les paperboards, etc. Autant il y a des choses très, je dirais, classiques, qu'on les appels à la paix, etc., qu'on voit dans tous les moments de manifestation post-attentat. Autant il y a une spécificité des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on a trouvé des mots où il y a que dans les quartiers populaires où on va tenir ce genre de mots ou de propos. Après les attentats, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petits papiers aussi sur arrêtez de parler nous de cette manière-là, Grigny, ce n'est pas seulement ceci. À Grigny aussi, on vit en paix, c'est-à-dire la volonté de rétablir et de renverser le stigmate qui est tout de suite lié à cette idée, cette notion de vivre en paix. Voilà, la paix, c'est aussi ça. Et puis aussi beaucoup de mots sur le quotidien, la difficulté du quotidien, sur les services publics, sur comme si cette crise, elle révélait aussi finalement ce qu'on appelle dans le livre les violences structurelles qui structurent et déstructurent la ville, et elles émergent très très vite. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui avait perturbé le collectif, qui disait mais bon, c'est hors sujet, pourquoi les gens nous parlent des poubelles, du fait qu'il n'y ait pas assez de profs, du fait que c'est extrêmement compliqué de se déplacer, du calme, enfin de tout un tas de phénomènes, mais qui au fond, dans le continuum de violence en fait structurelle, et que le moment de crise de la violence terroriste révèle, sont d'une certaine manière interconnectés. C'est un peu le travail qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire de rentrer par la fenêtre des attentats pour essayer de voir ce que ce moment-là dépliait de plus profond, et de voir quel type de faits sociaux il y avait derrière le fait divers.
Dans cette volonté de retourner le stigmate, Fabien Truong, est-ce que cela passe aussi par un affect, la fierté d'être habitant de Grigny, la fierté d'y vivre, la fierté aussi de montrer qu'autre chose est possible que cette image que les médias et d'autres accolent à cette ville?
Oui, évidemment, ça c'est un truc très classique en fait, hein, qui est pas lié au quartier populaire, mais le grand sociologue du stigmate, Erving Goffman, parle de renverser, retourner le stigmate. Donc ça c'est un comportement assez classique, et c'est vrai que dans les quartiers populaires, mais c'est aussi parce que c'est souvent moins médiatisé, mais il y a beaucoup de réussite aussi de jeunes qui ont des parcours de réussite dans ces quartiers. Alors on parle en général des rappeurs, on parle en général des footballeurs, mais il y a plein d'autres histoires de réussite sociale qui sont mises en valeur par les habitants, par la ville. Et d'ailleurs, de manière un petit peu symptomatique et symbolique, je dirais même dans la famille Koulibaly, par exemple. Puisque, en fait, il y a Amédi Koulibaly, tristement connu, mais il y a aussi les sœurs, et notamment, je pense à la grande sœur Maïmouna Koulibaly, qui était connue avant son frère en tant que chorégraphe, en tant que danseuse, qui a écrit un livre. Et l'enquête, en fait, d'une certaine manière, démarre avec le frère et se termine avec la sœur, qui nous renvoie aussi une autre image, en fait, et là, au sein de la même famille. Et du coup, l'idée, c'était aussi, dans cette enquête, de tenir ces deux bouts-là ensemble, parce que d'une certaine manière, ça fonctionne un petit peu en système et en relation.
Merci beaucoup, Fabien Truong, sociologue à l'université Paris 8, auteur, on le disait avec Jérôme Truc, de Grand Ensemble, paru en janvier aux éditions de La Découverte. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bertie Bourdon, Bruno Barada, Roxane Poulain, à la réalisation ce soir, comme chaque soir, Léa Racine.